Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas comment vous êtes, mais ces temps-ci, de penser au Moyen-Âge ou à Raymond VII, c'est vraiment pas l'ambiance. Enfin, c'est difficile parce que, bon, on a la tête et le cœur aussi rempli avec le problème des retraites et c'est vraiment mal barré. Donc, il faut se concentrer là-dessus, il faut se battre, il faut réfléchir. Enfin, voilà. Mais finalement, quand on voit la pagaille qu'il y a au gouvernement actuel, on pense, enfin moi je revois la pagaille qu'il y avait au temps de Raymond VII et la pagaille dans l'église au plus haut niveau, le pape, les évêques, etc. Les uns disaient quelque chose, les autres disaient le contraire. On disait blanc le matin, noir le soir, enfin c'était vraiment du n'importe quoi. Et du baratin surtout, enfin des mots et pas d'actes qui changeaient quoi. Si bien que on comprend que à la fois que certaines personnes en aient vraiment ras-le-bol et laissent tout tomber, et puis à l'opposé, au contraire, on comprend aussi qu'il y a des personnes qui se lancent dans la lutte à tout prix et même malheureusement, souvent violente, mais voilà. Donc, on se retrouve avec des siècles de distance, et pourtant, c'est un peu la même chose. Bon, d'accord, au XIIIe siècle, c'était pas le fric, l'argent qui était le premier souci de tous, c'était comment je vais faire quand je vais rencontrer Dieu à ma mort pour qu'il m'envoie pas en enfer. Alors aujourd'hui, bon, sans doute que les gars qui sont à la tête des multinationales ou des banques se font plus de soucis pour leur compte en banque que pour la volonté du bon Dieu. Mais enfin, passons là-dessus. Et donc aujourd'hui, je vous invite, faut quand même pas avoir peur de la vie quoi et même de la vie quand elle se vient sous forme de lutte. C'est pour ça que je vous invite à la conférence du dimanche 16, le dimanche après Pâques à 18h au Colombier, vous le savez, où on va continuer une nouvelle approche de Raymond VII dans ses relations avec les cathares. Et on peut imaginer que c'est de la religion, en veux-tu, en voilà. Eh bien, je pense, enfin, je le pense pas, non. C'est beaucoup plus grave que ça, et ça sera intéressant de voir comment justement un homme comme Raymond VII, que l'on connaît maintenant, mais aller un peu dans ses retranchements, ce que j'aimerais bien que on progresse là-dedans, qu'on découvre que c'était quelqu'un bien de son temps et bien lancé dans la lutte avec les gens de son époque et contre les pouvoirs qui étaient en place. Le titre de la conférence, c'est Raymond VII et les cathares, mais en fait, le mot cathare, bon, on l'expliquera plus en détail, mais c'est pas du tout le mot qu'employait Raymond VII a sans doute jamais entendu le mot cathare, que ce soit en latin ou en occitan ou autrement, quoi. C'est dans le monde moderne qu'on a surtout parlé des cathares ou ailleurs, par-ci par-là en Europe. On parlait plutôt des hérétiques en général. Mais justement, quand on essaie de se mettre dans la vie de Raymond VII, un peu dans le concret, on s'aperçoit que c'était pas la même chose pour lui être cathare et être classé hérétique. Et ça, c'est intéressant à approfondir, d'autant plus que Raymond VII, bon, là, on le voit avec la distance, donc on a l'impression que on voit tout ça d'un seul coup, un seul coup d'œil, 50 ans de sa vie, comme aujourd'hui on regarde la 5e République d'un seul coup, alors que il s'est passé beaucoup de choses, et si on va plus loin, même depuis la Révolution, hein, Dieu sait si les choses n'ont pas été toujours de la même couleur ou du même acabit, quoi. Hein. Je pense que ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, et comme on essaie de le faire dans ces émissions ou dans les conférences, quoi, il me semble que ce qui est intéressant justement, c'est de voir que les gens qui sont là, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour employer des mots modernes, quelles que soient leurs opinions, que ce soit des hommes, des femmes, etc., faut toujours les voir, ces gens, en évolution. En mouvement, pas seulement en mouvement, les deux pieds, bien sûr, ça joue de marcher, d'aller, etc., mais à l'intérieur de soi-même, en évolution. Et c'est pas la peine de revenir en détail là-dessus, mais enfin, quand on pense à Raymond VII, Dieu sait qu'il y a eu des événements qui l'ont poussé à changer, quoi, hein. Et, tranquillement installé dans le château de Beaucaire et voir arriver la croisade et se dire qu'il va peut-être passer de l'autre côté, ça va être, c'est pas, enfin, ça fait bouger, quoi. Hein. Donc, on va essayer de retrouver ce Raymond VII en mouvement, en évolution, au plus profond de lui-même. Non, auparavant, non, on fait une petite pause.
Les Africains nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Si nous voulons avancer, il va falloir se battre. Se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps. Mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis. Mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne laisse aimer. Aucun espoir pour nos révoltes. Dès à présent, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix.
Michel Bonnet. Et nous disions donc, on allait penser à à Raymond VII et au monde des hérétiques ou des cathares. Et s'il y avait un message à résumer que Raymond VII veut nous laisser, je crois que ça serait de dire ne nous figez pas, ne nous regardez pas comme des statues qui ne bougent pas du tout. On est tous en évolution et Dieu sait si lui, il a été bousculé comme c'est pas possible par les événements. On se rappelle la croisade, on se rappelle le concile de Latran, on se rappelle la bataille de Beaucaire avec Simon de Montfort et ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa vie, quoi, en collectionnant les excommunications du pape et tout le reste. Voilà. Et donc, je pense que de réfléchir à cela, de se laisser pénétrer par cette pensée-là que chaque personne qu'on rencontre, que ce soit un partenaire dans la lutte ou dans une manif, ou que ce soit à l'opposé, des gens contre, des adversaires, etc., et se dire toujours que on est changeant, on évolue. Les gens qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas exactement ceux qu'on a rencontrés hier ou avant-hier. Et il y a des chances que demain aussi, ils seront encore un peu différents. Et soi-même là-dedans, évidemment, on est en évolution. J'ai envie de dire que on doit être en évolution. Et c'est justement un des points qui est frappant quand on voit, on compare le trajet de la vie de qu'a été la vie de Raymond VII et puis le trajet des hérétiques qui ont été autour de lui, enfin beaucoup d'hérétiques, oui, notamment les cathares. Et d'un côté, lui, on le voit, on le sent en évolution. Et il change, il y a des fois il dit le contraire même de peut-être de ce qu'il aurait dit la veille, hein. Mais en face, il a des gens, des hommes, des femmes qui ne veulent pas changer, qui s'accrochent au passé sous prétexte de fidélité au lignage, fidélité au fondateur. Et Dieu sait s'il a été éduqué, Raymond VII, pour ça, hein. Il est l'héritier du lignage des Raymondins, et il faut faire attention, faire honneur, se rappeler sans arrêt ses ancêtres, etc., etc., les grands ancêtres, et même ceux qu'on connaît beaucoup moins, se rappeler les blasons, et tout ça, et être fier de cela, s'en pénétrer, pour être fidèle à ce que on croit, ou ce qu'on nous a dit, qui était l'attitude du fondateur de la lignée. Vous voyez ? Et là-dedans, dans l'éducation qu'a reçue Raymond VII quand il était gamin, et parce que c'est surtout quand il était gamin que ça s'est joué, quoi, il a reçu une éducation pour être vraiment un digne héritier du lignage des Raymondins, et là-dedans, il y avait l'héritage venant de Jésus-Christ, parce que tous étaient chrétiens 100%. Hein. Il n'y a qu'à se rappeler sa maman, Jeanne, qui elle pouvait être reine de Jérusalem, et elle a refusé parce qu'elle pensait que c'était pas fidèle à Jésus-Christ, le fondateur de sa foi, quoi, de sa religion. Donc Raymond VII a été profondément éduqué dans ce souci. Il faut rester fidèle à ceux qui nous ont précédés. Mais évidemment, quand on pense à ça, on pense à un passé qui est tellement loin qu'on le connaît pas bien, et donc on le fige. Et l'image que on a de Jésus-Christ, par exemple, dans la religion, il y a des chances, enfin j'en sais rien, mais il y a des chances qu'elle est très différente de celle qu'il a, de l'homme qu'il a été véritablement à une époque donnée en Israël, avec la vie qu'il a passée, etc., quoi. Donc on risque de se figer dans une fidélité au passé, en fait une fidélité au passé qui nous fige. Et on le voit dans beaucoup de domaines. Ah non, ça faut pas le faire. Ah ça faut le faire. Enfin, tout devrait être fixé d'avance. et pas inventé, pas collé à la réalité d'aujourd'hui, quoi. Et quand on pense au futur, on risque aussi d'y penser de la même façon, hein. C'est évident, quoi. Et donc, Raymond VII, ce qui est intéressant quand on le voit vivre avec les Cathares, alors qu'il est dans la même situation d'Occitanie, de l'époque, dans la même situation de la croisade contre les hérétiques, et qui parle avec tous ces gens qui sont, ces hommes et ces femmes qui sont autour de lui, on le voit d'un côté, lui, constamment à la recherche de ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour préparer demain, tourner vers le futur sans arrêt, mais sans tourner le dos au passé, alors que les Cathares autour de lui sont incroyablement figés dans une fidélité à Jésus-Christ, ou tout au moins à une image qu'on leur a donnée de Jésus-Christ. Et quand il fait ça, quand on le voit dans le concret, on ne va pas rappeler ça sans arrêt, quoi. Mais il fait face à des situations très précises, hein, que ce soit à Beaucaire, que ce soit au Latran, que ce soit à Toulouse, au siège de Toulouse, et chacun des sièges de Toulouse a été différent des uns des autres, et les luttes avec les différents, avec Simon de Montfort, mais avec les autres seigneurs aussi, c'était, chacun avait sa façon, son lieu, son heure pour se battre, quoi. Et donc, on est vraiment acculé à s'attendre à devoir changer, à devoir évoluer, et donc si on le fait pas, on s'arrête, on se fige droit dans ses bottes, comme on dit quelquefois par rapport à certains politiques, il y a pas encore très longtemps, quoi, hein. Le souci numéro un, justement, de Raymond VII, qu'on peut voir de façon tout à fait particulière quand il vit en lien avec, enfin, en lien avec ses Cathares, quoi, c'est véritablement de se dire, mais comment ensemble on va pouvoir faire face à demain? Il faut qu'on bouge, il faut qu'on se prépare à la société qui est en train de naître et qui ne sera pas du tout celle qui était là à ma naissance ou qui était là à plus forte raison avant. Et donc, il nous invite à être toujours disponible. Et disponible, pourquoi? Ben parce que justement, il sait, et ça c'est la grande force, je pense, de Raymond VII, il sait que ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel on bouge, dans lequel on fait quelque chose. C'est pas une lettre que on lit purement et simplement, non. On regarde ce qui est dans ce qui est écrit, et ensuite on le met en pratique, et donc en le mettant en pratique, on le change parce que on est obligé de réfléchir, on est obligé d'aimer ou de pas aimer, etc. Et donc c'est cette priorité aux valeurs intérieures, aux valeurs spirituelles, au mouvement, quoi. C'est le mot, je dirais, qui est important pour résumer Raymond VII. On va, avant de continuer, on va de nouveau s'arrêter un petit moment.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Lies. You left me hanging, hanging from the limb. You said you loved me, then you left with him. Lord, you did it to me, I see it in your eyes.
Michel Bonnet. Nous parlions de Raymond VII et des Cathares, et il y a quelque chose qui m'a étonné ces temps derniers, enfin parce que je continue toujours à essayer de connaître un peu mieux Raymond VII, quoi. Et en faisant la liste des hommes et des femmes qui ont été condamnés ou qui sont passés en procès avec l'Inquisition, etc., à l'époque donc de Raymond VII, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que tous ces gens que l'on appelle cathares et que Raymond VII a rencontrés dans sa jeunesse, avant qu'il devienne comte de Toulouse, quoi, dans sa jeunesse, tous, comme par hasard, sont parents avec lui. C'est assez étonnant de voir ça, parce que on a habituellement, on fait la généalogie et on remonte du fils au père, du père au grand-père et ainsi de suite. Tandis que là, quand on fait la généalogie de Raymond VII, mais en s'occupant des femmes qui sont rentrées dans la famille, là, par exemple, donc sa mère ou bien et donc sa grand-mère, etc. Mais c'est la même chose avec une tante, avec ceci, avec cela. On s'aperçoit que c'est tout un réseau qui à travers les femmes qui sont venues, parce qu'elles ont, à cause du mariage, 9 fois sur 10, hein, toutes ces femmes-là sont venues de différents clans, de différentes familles aristocratiques, dispersées à travers tout le Midi, toute l'Occitanie, et sont venues se greffer sur la famille de Raymond VII. Et donc, pour lui, être héritier de la dynastie des Raymondins, c'est aussi être lié avec tout un réseau, même si on ne le connaît pas bien, même si on ne les rencontre pas tous les jours. Mais c'est vraiment être inséré dans un grand réseau. J'ai été frappé parce que, si on prend le grand procès de Toulouse de 1235-40, on s'aperçoit que dans les cathares liés avec Raymond VII, il y a environ 170 familles qu'on connaît par écrit. Hein, et il y en a qu'on connaît peut-être pas, quoi. Vous voyez un peu l'énorme réseau que ça peut représenter d'être lié à 170 familles. Parce que famille, ça veut dire un couple, ça veut dire des enfants, etc. etc. Tout un autre milieu qui vit quelquefois ailleurs, entre la Provence et Toulouse, et entre Toulouse et l'Ariège, et ainsi de suite, et le Quercy et la Catalogne, c'est pas pareil, quoi. Hein. Et donc, vous voyez, cet énorme réseau qui est en effervescence à chaque fois qu'il y a un événement. Et lorsque Raymond VII, VI, le père de Raymond VII, a été à côté de Beaucaire, à Saint-Gilles, devant la basilique, devant l'église abbatiale de Saint-Gilles, a été mis en pénitence, a été fouetté par le légat du pape pour montrer qu'il était condamné par l'église, etc. Ça a scandalisé, ça a remué des foules de gens bien au-delà de ceux qui étaient rassemblés autour du parvis de l'abbaye, quoi. Donc, ce lien de Raymond VII avec sa famille cathare, avec les cathares, c'est automatiquement aussi un lien avec l'ensemble de la force aristocratique des Raymond, c'est-à-dire la politique du comte de Toulouse. Et c'est tout ce réseau, il est là, il est lié par des liens de vassalité, par des liens de mariage, par des accords différents, par des taxes, ceci, cela. C'est tout un monde qui est profondément lié les uns aux autres. Et donc, pour Raymond VII, progressivement, on le voit quand on réfléchit bien aux événements de son existence, progressivement, il ne voit pas les cathares d'abord comme une question religieuse, mais il le voit d'abord comme une question politique. Et là-dessus, on peut dire, il rejoint l'attitude de l'Église vis-à-vis des Raymond, de la dynastie des Raymond, vis-à-vis des comtes de Toulouse, et également vis-à-vis des hérétiques en général, quoi. C'est l'Église à ce moment-là prend son vrai visage. J'ose pas dire le mot vrai parce que on n'en sait rien quel est le vrai visage, mais un visage très très précis, qui est celui du pouvoir politique auquel on s'accroche et que l'on veut avoir, hein, qu'on l'appelle de gauche ou qu'on l'appelle de droite ou autrement, quoi. Hein. Et donc il se retrouve quand il est face au Qatar, en fait, il se retrouve par derrière les Qatars, face à la papauté, face à l'Église, mais toujours dans la même ambiance, le même problème. Qui fait véritablement la politique qui va apporter du bonheur, du bien-être, peu importe les mots dont on va les nommer. Et là, on voit très bien que c'est tout à fait très très profondément que Raymond VII se heurte au pape, tout en restant lui-même très chrétien. Hein, et c'est mais très chrétien à l'intérieur de lui-même, mais par contre, dès qu'il se situe en tant que Raymond, comte de Toulouse, il est obligé de se situer en politique face à un pouvoir qui lui aussi se veut politique, parce que les papes de l'époque se voulaient absolument les maîtres, disons, du monde pour aller vite, mais en fait, les maîtres de l'Europe, et c'est pour ça qu'il faisait sans arrêt des accords, des pressions, etc., sur le roi de France, tout particulièrement, parce que la papauté a senti que ça serait plus facile de manipuler les rois de France que les empereurs d'Allemagne ou d'autres plus réticents, comme les rois d'Angleterre ou la Castille avec la proximité des Arabes, de l'influence de Al-Andalus et tout le reste. Et donc, là, face à cette volonté, on dirait hégémonique, pour employer un mot moderne, ce pouvoir total que l'Église se voulait avoir au point de vue politique, Raymond VII, lui aussi, se situe en politique, et donc il va résister. Il va résister, il va être condamné, il va être excommunié, etc., etc. Mais ça, je dirais, il le sait, il sait que c'est du politique, et il sait très bien que c'est pas du religieux. Et donc, ça ne va pas le remettre en cause en profondeur. On va s'arrêter une minute de plus.
C'est un monde parallèle aux gestes saccadés. où les mains se dégèlent sous des tables cachées. C'est un monde contre monde aux histoires compliquées, où les amours se fondent dans des endroits foncés. Je dérange des yeux, je des mains du hasard. Je du corps, je du cœur, je des heures dérisoires. Et c'est un monde étrange au parfum lourd poivré, où les visages changent et s'en vont en fumée. C'est un monde bizarre aux couleurs chamarrées, qui se plaît dans le noir pour mieux se mélanger. Je des regards, je des yeux, je des mains du hasard. Je du corps, je du cœur, je des œufs dérisoires. C'est un monde futile à l'allure décidée, où les amours se grillent à force d'en changer. C'est un monde fantôme aux douceurs veloutées, là où le jeu de paume semble le préférer. Je des regards, je des yeux, je des mains du hasard. Je du corps, je du cœur, je des œufs dérisoires. C'est un monde bavard aux propos détournés, qui va d'aérogare encore à cœur usé. C'est un monde de tendresse à l'humeur fatiguée, qui se noie de caresses pour enfin s'éclater. Je des regards, je des yeux, je des mains du hasard. Je du corps, je du cœur, je des œufs dérisoires. C'est un monde parallèle aux gestes saccadés, où les mains se dégèlent sous des tables cachées. C'est un monde contre monde aux histoires compliquées, où les amours se font dans des endroits foncés. Je des regards, je des yeux, je des mains du hasard. Je du corps, je du cœur, je des œufs dérisoires. Je des regards, je des yeux, je des mains du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, j'ai des œufs dérisoires. J'ai des regards, j'ai des yeux, j'ai des mains du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, j'ai des
œufs. Corde 1222, Michel Bonnet. Nous voilà donc. On continue à réfléchir un peu avec cette perspective de la conférence du dimanche 16 avril sur Raymond VII en lien avec les cathares ou avec le monde des hérétiques et qu'est-ce que ça peut signifier. Et donc je disais que ce qui est marquant chez Raymond VII, marquant à cette époque, c'est que en fait le problème majeur, c'était pas, malgré les apparences, un problème religieux, c'était un problème politique. Là, dans le concret de la vie quotidienne, dans le concret du rythme des années qui venaient, etc., il y avait une volonté de l'Église de prendre le pouvoir sur tous les éléments de l'existence. Et dans ces éléments, il y a les hommes politiques de chaque pays, les systèmes politiques de chaque pays. Et Raymond VII, lui, progressivement, a découvert, on en reparlera plus tranquillement, quoi, mais a découvert, suite à ses rapports avec la population, qu'il devait d'abord se situer en tant que comte vis-à-vis du pape, vis-à-vis de la politique voulue par le pape. Et cette politique, on sait que c'était pas amusant, hein, quand il a fait venir la croisade du Nord et que Raymond VII s'est retrouvé face à Simon de Montfort, c'était pas une partie de plaisir. Bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui, on trouve que les CRS, ils ont pas, ils sont pas tendres dans les manifs, mais à cette époque-là, les croisés, ils étaient pas tendres non plus quand ils venaient attaquer Saint-Marcel, la Guépie ou les villages des environs, quoi. Et donc, Raymond VII, lui, voulait se situer vraiment là, chaque jour, face aux problèmes qui se présentaient. Et on en a un exemple, par exemple, qui est frappant, c'est qu'il s'est très bien rendu compte que tout dépendait de la volonté du pape et que tout dépendait de la politique que menait le pape, c'est-à-dire qu'il voulait absolument prendre le pouvoir sur tous les seigneurs, les grands seigneurs, etc., etc. Et surtout, après le traité de Paris, vous savez qu'il y a le grand tournant où Raymond VII est reconnu vainqueur de la croisade, et en même temps, donc, la paix arrive, et en même temps, du coup, non seulement il est vainqueur, mais il est restitué comme comte de Toulouse. Et il est obligé, à cause de ce traité de Paris, qui est extrêmement important, on aura l'occasion d'y revenir d'autres fois, il est obligé de se battre contre les hérétiques. Est-ce que ça veut dire qu'il va être, comme beaucoup le pensent, la courroie de transmission du pape? Pas du tout. Il analyse la chose et il voit que, après la croisade, le pape lance une nouvelle croisade, si on peut dire, une nouvelle armée, mais cette fois, c'est l'armée des inquisiteurs, c'est pas l'armée des seigneurs du nord de l'Europe, hein. C'est l'armée des inquisiteurs. Et il prend de suite, il analyse ça, il voit très bien que le problème, est là où il peut intervenir, c'est mettre une coupure, si on peut dire, entre la politique des inquisiteurs et la réalité locale. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre, mais pendant plusieurs années, quoi, dur, pour que la mission de l'inquisition, de la lutte contre les hérétiques, ne soit pas mise entre les mains des inquisiteurs par le pape, mais entre les mains des évêques du lieu. Vous voyez l'astuce, tenir au local, parce que là, il connaît mieux, il connaît les évêques un par un, il connaît comment les uns et les autres se situent par rapport à leur diocèse, par rapport au seigneur du coin, etc. C'est plus un pouvoir lointain, un peu dans l'abstrait, qui est en face de lui, il voudrait avoir des gens en chair et en os, et non pas simplement le pouvoir du pape qui donne des ordres à des légats, ils vont, ils viennent, ils repartent, et on peut pas faire grand-chose. Vous voyez comment il s'adapte quand je dis qu'il a été en évolution, ça c'est un signe extrêmement important, et il réussira, pas longtemps, 3-4 ans, il réussira à faire arrêter l'inquisition par les inquisiteurs, par donc les légats du pape, et pour que ce soit les évêques de l'Occitanie qui soient responsables de la lutte contre les hérétiques. Et là, de suite, il va travailler autrement avec les différents évêques. Vous voyez comment il s'adapte, comment il évolue. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte de cela, parce que rien n'est jamais totalement figé. Et quand on voit, on le voit avec les cathares, mais on le voit à l'opposé avec l'Église, c'est dans la mesure où quelqu'un est figé, croit être inamovible parce qu'il est bien ancré sur ses positions, c'est à ce moment-là qu'on peut le déboussoler, le déboulonner rapidement de son piédestal. Et donc, Raymond VII était extrêmement attentif à cela. Il a reçu des excommunications sans arrêt. il n'a jamais été perturbé par ces excommunications, alors qu'il y en a d'autres qui, d'autres seigneurs, d'autres rois, qui se faisaient un sang du diable et qui essayaient de faire lever l'excommunication le plus vite possible. Lui, il disait, bon, ben, on verra bien comment ça se passe. Et effectivement, il continuait la lutte sans arrêt. Et on peut se demander où est-ce qu'il a pu trouver en fait cette attitude, cette force intérieure de se vouloir toujours en train de bouger, en évolution, jamais assis tranquillement pour que pour pouvoir passer le temps. Et je pense que il a été très très marqué quand il était gamin par on pourrait dire le catéchisme, pour appeler un mot actuel, disons, très marqué par l'éducation qu'il a reçue, parce qu'il a été éduqué par les chrétiens cathares, hein. Son père avait fait attention à ça, et il voulait qu'il ait le top des tops au point de vue éducation chrétienne. Et donc, le top des tops, à l'époque, c'était être cathare. Hein. Et on en reparlera sans doute une fois ou l'autre, vous voyez. Et qu'est-ce que on lui a mis dans la tête? On l'a formé à ça. C'est à voir que Jésus était quelqu'un toujours en mouvement, était un pèlerin au sens de quelqu'un qui marche. Il y avait, vous savez que Pâques est la grande fête de l'Église chrétienne, enfin du catholicisme, du christianisme même, et donc là autrefois, bon, aujourd'hui on a un peu oublié ça, mais autrefois pendant 40 jours de carême on se préparait à aller vers Pâques, à monter vers Pâques, et à l'époque de Raymond VII c'était pareil. Pâques avait un sens tout à fait particulier, la vie était tournée comme une était organisée comme une marche vers Pâques. Et quand on arrivait à Pâques, qu'est-ce qui se passait? Le lendemain, c'était un grand jour de fête pour fêter Pâques. Ça allait encore d'ailleurs, alors que l'Église a presque disparu, si on peut dire, vous voyez. Et là, il y avait un enseignement très, très particulier. On va s'y arrêter une minute de plus après une pause.
Baby,
Cordes, 1222, Michel Bonnet. Nous continuons notre compagnonnage avec Raymond VII, et donc je disais que quand il était tout jeune, il avait été éduqué à concevoir l'existence comme une marche vers Pâques. Tous les ans, le rythme imposé par l'Église, c'était d'aller, de marcher vers Pâques, et le lendemain du jour de Pâques, donc le lundi de Pâques, était un grand jour, un jour particulier, un jour où on faisait un peu la fête différemment. Et il y avait une chose étonnante, au moins dans le midi, c'est que les gens se rassemblaient à l'église, mais à l'église, le curé avait l'obligation d'avoir avec lui deux autres membres du clergé, et il s'habillait en pèlerin. À l'époque, pèlerin, c'était une grande cape, un chapeau, enfin, c'était reconnaissable par tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait une page de l'Évangile où on raconte comment deux gars quittaient Jérusalem sur la route et marchaient vers le village d'Emmaüs en discutant sur la mort. Enfin, les événements de l'époque, et ils rencontrent à ce moment-là un gars qui se joint à eux, ils se mettent à discuter, et au bout d'un moment, quand ils arrivent au village d'Emmaüs, le gars leur dit « Si on buvait un coup ensemble, c'est sympa, tant qu'on s'arrête. » On s'arrête à l'auberge, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du pain, il le coupe, et il dit « Prenez, mangez-le en souvenir de moi. » Il s'ouvre les yeux, et les gars se découvrent que Jésus marchait avec eux. C'était Jésus qui marchait avec eux. Et ça donnait comme enseignement aux gens que Jésus était d'abord un pèlerin, était quelqu'un qui marchait sur la terre, et que si nous on se mettait en marche, il était en marche avec nous. Vous voyez, il a été tous les ans, faut quand même, un gamin c'est marqué par des choses comme ça, c'est des pièces de théâtre, il y a des images, c'est marrant, c'est pas un cours de catéchisme, même si ça enseigne la même chose, quoi. Et donc, il a été marqué par ça, cette image que Jésus, le fondateur de sa grande dynastie, dont il fait partie, la dynastie chrétienne, et dont fait partie toute l'aristocratie des Raymond. Des Raymond de Toulouse, quoi. Donc, le fondateur, véritablement, c'est quelqu'un qui est pèlerin, quelqu'un qui est en marche. D'ailleurs, si vous visitez de temps en temps des vieilles églises romanes, si vous regardez les chapiteaux, par exemple, très souvent, vous voyez des images du Christ habillé en pèlerin, ou bien des reproductions de la scène d'Emmaüs, habillé en pèlerin pour rappeler ça à tout le monde, que c'était vraiment important de penser à Jésus comme quelqu'un qui marche. Voilà. Et ça ne m'étonnerait pas. Enfin, c'était évident que Raymond VII a conçu sa fidélité à Jésus-Christ, et donc sa fidélité au christianisme et à son lignage chrétien, en voulant être lui aussi en mouvement. C'est-à-dire ne pas s'incruster dans un endroit et puis terminer, on bouge plus. Non, être en mouvement, être en évolution, que ce soit avec son corps, que ce soit surtout avec son esprit et son cœur. Et donc, il avait cette vision de l'existence personnelle comme d'une marche vers un but, vers quand on en sait rien, on sait que c'est la mort, la fin de la marche, mais aller vers la mort, mais en se disant on va rencontrer quelqu'un, et donc on avance, et les cathares étaient très très marqués par ça, mais avec cette hantise d'être fidèle, disons dans l'attente de la rencontre avec quelqu'un, mais sans s'occuper de la route, sans s'occuper de ce qu'il y a autour, quoi. Vous voyez, les cathares étaient pessimiste par rapport au monde, par rapport à la vie familiale, à la vie de couple, l'amour, etc., etc., quoi. Et donc, ils étaient un peu figés là-dessus. Et justement, Raymond VII, de ce point de vue-là, a essayé de promouvoir cette image du Christ pèlerin. Et là-dessus, il connaissait bien l'Évangile, bien sûr. Hein. Il a été bien éduqué là-dessus, il était bien entouré, etc. Mais il savait que une des paraboles, une des histoires centrales du christianisme, des Évangiles, c'était la parabole du fils prodigue qui s'est retrouvé à dilapider les richesses qu'il a reçues, avait amené une vie, on dirait aujourd'hui, de chenapan, une vie de pêcheur, comme on disait autrefois, quoi. Hein. Et là, tout d'un coup, il se dit non, ça peut pas continuer. Je vais aller vers mon père. Et lui, je sais qu'il fera quelque chose qui sera pour mon bien, parce que je sais que je vais pouvoir m'en sortir avec lui. Vous voyez, il avait au bout de Jésus a essayé de mettre dans la tête de ses disciples qu'il fallait marcher, mais qu'au bout de la marche, il y avait quelqu'un, et que ce quelqu'un, c'était un père qui aime ses enfants. Voilà. Et ça, ça a été extrêmement profond dans Raymond VII et dans le dynamisme qu'il a reçu. Par-delà l'Église, par-delà le pape, par-delà toutes les excommunications, etc., il savait que le principal, c'était de continuer à être soi-même en marche, soi-même pèlerin, à la rencontre d'un Dieu qui n'allait pas nous passer en jugement, mais qu'un Dieu qui était père, c'est-à-dire qui allait dire « Viens à ses enfants, viens, je t'aime ». Et voyez comment les cathares étaient très influencés par ça. Vous savez que juste avant de mourir, c'était important pour les cathares de recevoir ce qu'on appelait le consolament, les derniers sacrements en quelque sorte, et la dernière onction, la dernière bénédiction de la part des parfaits cathares, qui disaient maintenant avec ça, tu es tranquille, Dieu te pardonnera tout. Et cette fin de la vie avec le consolament était quelque chose d'absolument vital pour les cathares, mais presque de la magie, vous voyez. Et donc, ça les a amenés finalement au bûcher, parce qu'ils ne voulaient absolument pas refuser ça. Enfin, on en reparlera plus en détail, surtout si vous pouvez venir à la conférence du dimanche 16 à 18h, où on essaiera de se rappeler un peu plus tranquillement, un peu plus en détail, l'attitude, les contacts de Raymond VII avec les cathares. C'était Michel Bonnet à Cordes 1222.
Não tem capitão que segure, nem pedra que água não fure. Sorria como é de costume. A cabeça, levanta a cabeça, se aprume. Olhe a camará, se aprume. Olhe a camará, olele, olele. Vai dançar, camará. Vai dançar, camará. Lembre que só o amor que resolve, energia boa que renove. Joga na cintura, desenvolve. Essa vibe, essa vibe, essa vibe não, não se pode. Beijinho na boca do sujeito, cafuné no preconceito. Cheirinho tipo tiro certeiro. Abraço, abraço, abraço brotando no meu peito. Queremos mais amor e respeito. Amor e respeito.
Olhele, olhele.
Vai dançar, camará.
Olhele, olhele.
Vai dançar, camará.
CFM Radio. CFM.